Bonjour à tous, c'est Olivier, le créateur d'Esprit Landscape Fiction Audio, un podcast qui a pour but de raconter l'histoire de La Réunion et de ses légendes. Déjà, je tenais à vous remercier de votre fidélité, car on a dépassé largement la barre des 1000 écoutes, super, et ça dans le monde, ce qui est encore plus génial. Je tenais à intervenir car le podcast change. Le podcast se professionnalise et possède un Patreon. Sur ce Patreon, vous aurez la possibilité d'écouter le podcast en avant-première et ainsi de suivre l'évolution du podcast en cours. Et vous verrez surtout et avant tout les futurs projets. Tant qu'à moi, je vous dis à très bientôt dans vos oreilles et je vous laisse en compagnie du podcast. Merci, ciao!
Esprit Landscape, fiction audio.
Le cimetière de Saint-Pierre, boulevard Hubert de Luz, abrite la tombe du célèbre bandit et sorcier Citaran. Sa tombe, un lieu aussi connu que le personnage lui-même, qui fait l'objet de cérémonies de magie noire, lieu de rites mystérieux où certains viennent y déposer des offrandes, afin de jeter des sorts à leurs ennemis. Qui est vraiment Citaran? Le criminel sorcier à la poudre jaune? Ou juste une péripétie de mauvaises rencontres? Pour comprendre ce personnage, il faut remonter depuis 1858 au Mozambique. Un jeune Africain au nom de Simikunza Simikoba voit le jour. Malheureusement pour lui, son pays est une colonie portugaise. Son pays connaîtra l'esclavage, l'exploitation des ressources naturelles, guerre civile et toute autre maltraitance envers ceux qui se rebellent. Sous un pouvoir tyrannique, les habitants fuient leur propre pays. Ce fut aussi le cas pour Simikunza Simikoba. La seule solution pour Simikunza est de quitter l'Afrique à tout prix. La rumeur court que dans l'île de la Réunion, l'esclavage a été bel et bien aboli et qu'il rechercherait des volontaires pour travailler et ils seront libres et égaux. Simikunza décide de prendre le large avec un contrat de travail engagé. Il arrive à La Réunion en 1889, à l'âge de 31 ans. Je tiens à préciser qu'il est sans repère et ne sait pas où il va. Il travailla dans le domaine de M. Morange à Saint-Benoît pendant 2 ans. Mais Simikunza rêve de liberté. Il remarque aussi que, pour beaucoup de gens, l'esclavage était encore bien ancré malgré l'abolition de l'esclavage. On va dire que certaines mœurs ont continué à durer. Simikunza décide de quitter le domaine de M. Morange pour une quête de liberté. Et ça, malgré la peine de vagabondage encourue, et prend le nom de Citaran pour échapper aux autorités. Cette nouvelle vie et ce nouveau nom lui permet de retrouver du travail et se contente de vivre ainsi. Quelques années plus tard, sa route de liberté lui mena dans le sud, au lieu-dit la Kaffrine, où il travaillait sur un autre domaine. Il rencontra en 1906 un certain Pierre-Élie Calandrin, qui avait la réputation d'être un tisaneur un peu sorcier. Il était plus connu sous le nom de Saint-Ange. Citaran se lie très vite d'amitié, et très vite, Calandrin devient pour lui un protecteur. Calandrin savait que Citaran rêvait de liberté et l'encourageait à quitter ses gros blancs. Quelques jours plus tard, Citaran est accusé d'avoir volé dans la réserve de café. Malheureusement pour lui, il est contraint de démissionner et rejoint son protecteur, Calandrin.
Affole pas pour ça, de monde comme nous, on a notre propre vision, nous. Tout ça que nana ne peut gagner, à nous.
N'ayant plus de travail, plus d'argent et plus de toit, heureusement sa compagne Marie-Cédrine lui offrit le logis ainsi qu'à Calandrin. Dans cette petite case au milieu de la forêt, Marie-Cédrine est la mère d'une jeune femme nommée Bébé, qui vit avec un menuisier au nom d'Emmanuel Fontaine. Pendant son séjour, Calandrin apprit que Emmanuel Fontaine était un menuisier qui travaillait chez des personnes bien fortunées. Il réussit à convaincre Emmanuel de voler des outils bien spécifiques chez M. Alexandre Lebon, qui étaient des personnes fortunées où travaillait Emmanuel Fontaine.
Calandrin avait la réputation d'être un guérisseur. Bien qu'il travaillait avec des plantes et faisait des cérémonies de sorcellerie, tout cela a fait le tour des environs où il était. On suppose que Calandrin utilisait des herbages bien précis pour rendre ses victimes faibles d'esprit afin de mieux les manipuler.
Calandrin commençait à mettre son plan en place. Au début de leur brigandage, ce n'était que des petits larcins. Quelques animaux de basse-cour, alimentation, bijoux, le tout bien évidemment orchestré par Calandrin, comme s'il voulait savoir si Simikunza, Citaran et Fontaine était prêt à tenir un rôle dans des projets futurs. Faut dire aussi que pour notre trio, il y avait une condition de famine. Fallait avant tout se nourrir. L'année 1908 voit l'émergence de la Bande Rouge avec à sa tête Pierre-Élie Calandrin et bien d'autres compagnons d'infortune bien soumis. C'est cette même année que de simples voleurs de poules, ils passent à la barbarie. Leur méthode était bien orchestrée. Emmanuel Fontaine rentrait en jeu avec un vilebrequin pour percer un trou dans la porte. Précisons quand même que c'est un outil qu'avait demandé Calandrin. Calandrin, lui, préparait des mixtures pour les chiens, ainsi que sa fameuse poudre jaune à base de datura. Avec une tige, il soufflait à l'intérieur de la maison et Citaran, lui, s'occupait de la surveillance. Pour la presse, il ne comprenait pas comment ses victimes pouvaient rien entendre avec tout le vacarme d'un vilebrequin. En 1909, la Réunion vit dans la peur avec la Bande Rouge. Mais quelque chose les fait changer. Leurs hâtes s'enfonçaient dans la noirceur avec le meurtre de Deltel, un riche propriétaire. C'est ainsi qu'une vraie chasse à l'homme est officiellement ouverte avec récompense à la clé. Mais pour chaque passage à l'acte, Calandrin faisait une séance rituelle, avec le sang des victimes qu'il prélevait avant de partir. Il appelait ça son sirop le mort. Cette mixture avait pour but de les rendre invisibles. Et aussi bizarre que cela puisse être, Fontaine et Citaran croyaient en ses paroles.
Voilà, bois ça azote. À lui-même ça donne à nous la force. À lui-même ça rend à nous invisibles. Avec sirop le mort là, personne ne s'attrape à nous.
Les crimes étaient de plus en plus horribles. En ce qui concerne Citaran, c'était Calandrin qui expliquait où et comment frapper les victimes dans leur sommeil, et ainsi comment les égorger. Citaran était la marionnette de Calandrin, tout comme Fontaine. En août 1909, il décide de s'attaquer à un instituteur au nom de Lucien Robert. Leurs actes vont encore dépasser les limites. Cette fois-ci, leurs méfaits ne se passent pas comme prévu. Quand la Bande Rouge arrive dans la chambre, il voit l'instituteur et sa femme dormir. Calandrin ordonne à Citaran de tuer l'instit d'une manière bien précise. Puis Calandrin remarqua que l'épouse de Lucien Robert, l'instituteur, réveillée, tétanisée par la peur, et qu'elle attendait un enfant. Calandrin ordonna à Citaran de tuer la femme. Là où ça devient plus horrible, c'est que Calandrin a violé le cadavre de la femme en disant que ça, c'est la part du diable. Sur la fin juillet 1909, la méthode de la bonne rouge s'enraille. Un cambriolage ne se passe pas comme prévu à Mahavel. Le 19 août 1909, ils sont débusqués à l'étang Salé, mais finissent par s'échapper. Quelques jours plus tard, la maison du docteur Aubry échappe au cambriolage grâce au jeune Jules Aubry, qui donne l'alerte.
Au mois de septembre, Joseph Grondin, le vicaire de Calandrin, est arrêté, où il avoue sa participation au cambriolage raté des Aubry, ainsi que sa participation au meurtre des Robert.
Dans la nuit du 30 novembre 1909, un cambriolage raté au tampon signe la fin de la bande rouge. Quatre des bandits, en l'occurrence Citaran, tombent nez à nez avec le gardien de la propriété, qui lui était armé d'un fusil et qui n'hésita pas à tirer. Les quatre bandits prirent la fuite en abandonnant tous leurs outils. Tout leur matériel ont été récupérés par la police et ramenés au tribunal pour pièce à conviction. Après ça, toute la bande rouge a été arrêtée à la Châtoire. Tous, sauf Calandrin et Citaran. Le 13 décembre 1909, Citaran est arrêté au lieu-dit les 600. Et peu de temps après, le tour de Calandrin. Au 31 décembre 1909, la presse affiche en gros titre l'arrestation de la bande rouge.
Comme Citaran n'est pas né sur l'île, la presse en fait un bouc émissaire.
Le premier procès durera 8 jours. Pour la presse, le coupable idéal, c'est bel et bien Citaran. Pour la simple raison, c'est qu'il n'est pas né à La Réunion et la peine de mort lui sera prononcée. Un second procès aura lieu le 13 décembre 1910. La peine de mort est à nouveau prononcée pour Calandrin, Citaran et Fontaine, qui étaient le trio de départ. Citaran et Fontaine sont guillotinés le 20 juin 1911. Quant à Calandrin, lui, il reçut la grâce présidentielle et finit ses jours à la prison de Cayenne. Bien que dans cette affaire Calandrin était en retrait, pour la presse et l'opinion publique, Citaran était le maître du jeu, pour la simple raison qu'il était descendant africain. Fontaine, d'après la presse de l'époque, avait peur. Il fallait lui tenir la main pour monter sur l'échafaud. Quant à Citaran, lui, sa tombe est devenue un lieu de rituel, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et s'il est devenu un peu cette déité à notre époque, c'est parce qu'il a demandé à être baptisé avant d'être guillotiné. Ce qui expliquerait pourquoi Citaran, en tant que sorcier, est enterré dans un cimetière. Et pour l'époque à La Réunion, la place des sorciers était dans la ravine. Le simple fait que Citaran demande à être baptisé avant de mourir a un peu prolongé son existence après la mort. Et puis, quelle qu'en soit la chose que vous pensez, dites-vous bien que l'horreur est humaine.